Joseph Malègue, Augustin ou le maître est là. Chapitre 2. Le temps des rameaux nus. Deuxième partie, la soif d'un monde ignoré. En seconde, on mit Augustin hors concours, puisqu'il se trouvait dans la classe de son père. Seules lui restèrent ouvertes les compétitions échappant à l'enseignement paternel, l'histoire, les mathématiques, l'allemand. L'avance sur ses camarades y était d'ailleurs identique. Un énorme censeur aux mains velues arriva cette année-là qu'on commença de craindre dès le premier jour. Lui-même, quand il connut Augustin, affecta de lui parler d'un ton de brutalité cordiale, de déférence forcée et bourrue. « Eh ben, hein, vous n'encombrerez plus les palmarès, hein? Vous en laisserez pour les autres, hein? » « Vous n'en avez pas vu souvent comme ça ?» demandait-il au professeur de philosophie, vieil éclectique cousinien près de sa retraite, connu de toute la ville pour la largeur de son chapeau et la bonhomie de ses vestons. Plus remarqué encore de ses classes successives pour le jaune d'œuf coagulé chaque vendredi dans ses moustaches. « Non. Si. Attendez. Si. Le vicaire général. Ah bah, alors ce petit Méridier se fera curer ? Qui sait ? Fit l'autre énigmatique. Le tambour fit explosion dans leurs oreilles, couvrant le pronostic. Grâce à la terreur du censeur, la classe de seconde fut cette année-là maniable. Sur le banc des bûcheurs, devant la chaire, s'assit Vaton. Il avait fait à Augustin, pour la scène de la cour, de douces excuses embroussaillées. Rêveur blondasse, long, lassé, ses compositions françaises offraient d'heureuses trouvailles parmi des fioritures qu'Augustin savait naïves. Auprès d'eux vint Marguillet, fils fantaisiste de l'âpre mère libre penseur, et que son nom humiliait. Il avait écrit ses mémoires pendant toute la classe de troisième, dédiant chaque chapitre à des prénoms féminins, Julie, Agnès et Maria Annunziata. Appia, son voisin, dur brachycéphale brun, préparait dans le même temps l'académie de médecine en dessinant des squelettes où il inscrivait le nom des os. Frappés de la grâce dès leur première semaine de seconde, tous ces passe-temps leur parurent puérils. Ils se passionnèrent pour l'Énéide et les ouvrages de Boissier. Derrière eux, les bancs du fond bruissaient à voix basse comme friture sur feu doux. Ils menaient la partie principale de leur existence dans une étude voûtée en contrebas de la rue, pleine de rêves, d'alibi, d'enfantillage et de liberté. Augustin n'y entrait jamais. Quelques volumes dépareillés, parus entre 1880 et 1900, refluaient jusqu'à ses repères. On y avait vu circuler à Bourget, première manière, un équivoque Pierre-Louis et deux volumes de Zola, munis du cachet de location de la librairie dite Modern, prêtés par des externes hardis. D'autres échantillons dataient de plus vieux âges. Un tome dépareillé des Misérables contournait toute la hiérarchie des pièges, du maître d'études au censeur, avant de faire la nuit les délices d'Appia, dans un lieu caché connu de lui seul, peuplé de vieilles couvertures et de livres au rebut, éclairé par un mince filet de veilleuses venues du dortoir. Le fait qu'Appia, ignorant Paris, prenait le Luxembourg pour une église, ajoutait aux rencontres de Marius et de Cosette une part d'inexplicable, en décuplait la poésie. Vaton cachait un exemplaire des contes d'Espagne et d'Italie, recommençant sur son théâtre intérieur un romantisme de guitare et le prolongeant de ses propres vers. Quelques lagunes et beaucoup d'eau morte stagnent ainsi prise au grand volume d'eau des anciens printemps. Bien des pauvres enfants y vont plonger les mains, laver leur visage et s'y mirer les yeux. L'installation d'Augustin dans le cabinet de son père changea, grandit. Madame Méridier remplaça l'ancienne table par une autre plus vaste, plus haute, une vraie, qui servait de table de toilette dans la chambre à donner. Aussi bien la chambre à donner ne se donnait jamais, faute de gens qui vinssent la prendre, et parce qu'elle était déjà donnée aux habitants de la maison. La nouvelle table, de niveau avec le bureau paternel, les ravit tous deux, leur parut symbolique. L'intelligence d'Augustin se développait comme une plante complexe, longue à s'étaler. Maintes fois, le père reprit de ses mains fermes une composition tronquée, flottante, difforme. Les idées spongieuses apprirent la netteté essentielle à leur nature. La phrase commença de connaître la brièveté, le tour rapide. Augustin acquérait une discipline de construction, image de l'autre. En latin et en grec, ils travaillaient ensemble, hors de la classe officielle, que le niveau de leurs commentaires dépassait. Ensemble, ils traduisaient deux ou trois phrases par version, celles qui se prêtaient aux comparaisons, offraient à palper l'étoffe des mots, la laine profonde où se drapaient les phrases. « Repense cela en latin, » disait le père. « Qu'aurais-tu écrit à la place ?» Il passait la main sur le bel ivoire des Tusculanes, pressentait la transfiguration de Caton au De Senectute, comparait Tite-Live, Tacite, Salluste sur les textes passionnément. Augustin, qui connaissait son père, le sentait sans qu'il pût dire à quoi, peut-être en ce qu'il exagérait un peu, prendre aux développements oratoires de type classique un goût ironique et raffiné, comme à des bergeries un homme de cour du XVIIIe siècle. Peut-être aussi parce qu'il lui arrivait de parler des villes antiques, Rome, Athènes ou Tébessa, d'une toute autre manière, avec une technicité précise et un certain détachement. Bien des courants ruisselaient là, sans qu'Augustin devinât les sources. Un goût de grand lettré, une documentation exacte, une lecture prolongée de désir et l'amère assurance de ne jamais voir ce qu'on aime. Telle quelle, cette semi-indolence excitait comme un roman incomplet. Une Rome en travertin, couleur rose et miel, un soir doré, plein de cette sérénité qu'à l'âge d'Augustin on nomme philosophique, des mosaïques sous des trépieds grêles, le Clivus Palatinus et le Cryptoportique, la maison de Livy et la chambre de la signature, parties d'époques très séparées, se donnaient rendez-vous, on ne savait comment, dans les mêmes rêves. La riche histoire pendait comme une récompense au bout d'explications littéraires bien faites. Elle se mêlait à une linguistique que le professeur ne manquait jamais de rappeler en classe à cause de son fils, quoiqu'elle passât de loin le niveau des bûcheurs. De grands appétits positifs naissaient obscurément des textes et débordaient sur le reste. Mais le maître ne devançait pas l'heure. Maintes fois, comme ils revenaient tous les deux du lycée dans de noires petites rues ensoleillées, sentant le pain, quelques collègues accompagnaient M. Méridier. Il agitait les considérations étroitement professionnelles, le nombre d'heures qu'il devait, le tarif des vacations, le statut comparé des certifiés et des agrégés. Il les coupait d'idées générales brusquement vastes, à la fois cassantes et ultra-fluides. M. Méridier les accueillait d'un « oui, oui » passif et résigné que son fils connaissait. Penché vers Augustin, le collègue lui demandait plaisamment son avis. Oh, il ne sait pas, disait le père, mais il sait qu'il ne sait pas. Ainsi, l'enfant pressentait-il que le non-savoir accepté et circonscrit fait partie, comme le savoir, des démarches de l'intelligence. Même développement sans hâte dans les autres régions de son paysage moral. Les martyrs furent lus vers cette date pendant les après-midi du dimanche. La phrase des termes ornés de bibliothèque trembla longtemps dans sa mémoire, mais Cymodocée prit sans plus l'aspect d'une belle Corée archaïque, pareille à celle des photographies de taille un peu forte sous les plis verticaux du chitone, dans l'air sec de la Grèce, le long des lits pierreux bordés de lauriers roses, aux minces et précis parfums. Le qui te l'a dit d'Hermione fut compris, mais en théorie, comme on dissèque des formes de crustacés ou d'ascaris, de loin, de haut, sans faire, Dieu merci, partie de l'espèce. La connaissance positive du cœur humain passionné, sur document de première main, est fort ultérieure. Sous les brumes de l'adolescence, les lourds lyrismes charrieurs de désirs, grumeleux et sucrés comme des lilas, n'offrent pas, quand ils existent à cet âge, grande matière à idées claires. Aussi rares que leur caricature est fréquente chez des enfants de 15 ans, ils sont pure souffrance ou pure joie, ou les deux ensemble. Et le père croyait bien savoir que son fils ne les connaissait pas. Douce seconde, heureuse seconde, quel enchantement vous paraissez lorsqu'Augustin se reporte jusqu'à vous à travers les fuites ultérieures d'une mémoire oublieuse et des souvenirs dont chaque jour rend l'amas plus léger. Vers cette époque se produisit un événement mondain. D'inconstantes rumeurs, pareilles à celles qui foisonnèrent au-dessus d'une grande chute, abondaient maintenant autour d'une étonnante résurrection. L'histoire du lent effritement des préfailles resta pour le commun des hommes perdue dans les brumes augustes où s'enveloppe le malheur des grands. Mais elle était fort claire pour ceux qu'une pente d'esprit bizarre, un goût dépravé ou simplement leur profession, portaient à attribuer sens précis et valeurs pratiques à des vocables tels que liquidation de passif successoral, purge d'hypothèques conventionnelles, prérogative du crédit foncier en matière d'adjudication de biens vendus à sa requête, état provisoire de colocation. Ces termes indiquent que les hommes d'affaires exécutent devant les biens de ce monde les rites du respect et de la fin. Ils signifient en outre que l'argent s'en va. Intervinrent même des notaires et avoués de villes prestigieuses, Lyon ou Paris. L'histoire se composait d'événements très anciens, comme la cession de la terre et du château des Sablons, d'autres moins lointains, comme la mort de la marquise Douairière, d'autres enfin beaucoup plus jeunes, tels que la dispersion de la famille, la licitation de l'hôtel et finalement l'absorption des fermes et métairies qui restaient par ces mêmes Lyonnais de haute fortune à qui la grande demeure, dans la solitude de ses futaies, avait plu jadis. Tous ces traits eurent le tort de se placer pour Augustin entre 10 et 15 ans, trop tard pour bénéficier des émerveillements de la petite enfance, trop tôt pour être préféré aux seules choses qui comptassent, la structure de la tragédie classique, le véritable intérêt de l'Énéide, à plus forte raison, la révolution littéraire due à Chateaubriand. L'image radieuse de sa préhistoire passionnée restait dans ses reconstitutions, plus que dans ses souvenirs, comme un point étincelant et sans dimension, séparée du réel et des nouveaux apports de la vie. La rumeur commença de voltiger de bouche en bouche, mêlée d'appréciations de fortune et de beauté. On disait « Elle a de la chance ». On ajoutait « Déjà d'un certain âge ». Mais d'autres protestaient « Comment, d'un certain âge, vous plaisantez, 27 ans, c'est une fille merveilleuse. C'est lui, oui, qui a de la chance. » On disait encore « C'est un degré de lion. » « Pas ceux des sablons ?»« Ceux des sablons. » Ou du moins l'un des fils. Le questionneur insistait, abritant ses doutes sous un conditionnel. Ce serait celui qui a l'énorme fortune? Mais l'informateur citait des références écrasantes. Je tiens la chose du directeur du Crédit Lyonnais. Je ne peux pas mieux vous dire. De cette source olympienne, il laissait ensuite, compilateur sournois, couler ses propres commentaires. L'ancien sceptique, alors, articulait un petit « sifflé, très aigu, voisin de « li », chargé d'exprimer l'éblouissement. L'événement dépassa le stade des rumeurs, devint un fait dur, indiscutable et résistant. Ceux qui lisaient les mondanités dans les grands journaux parisiens virent le mariage dûment relaté et le nom du lieutenant de vaisseau, comte de Préfailles, cité comme témoin parmi d'autres noms. Le degré qu'avait épousé Mademoiselle de Préfailles n'était pas celui de l'énorme fortune, mais son frère cadet, d'un volume financier moindre, encore que fort au-dessus des plus grosses dimensions du Cantal et d'un autre ordre qu'elle. On sut qu'il était veuf, comme son frère d'ailleurs, et pas très jeune. C'était à lui qu'appartenaient ces sablons que le pays prenait l'habitude d'adjoindre à son nom. Il avait, par caprice d'homme extrêmement riche, racheté les anciennes futaies, bois taillis, prairies, pâtures, terres de labour, fermes et métairies, reconstitué à peu près toute l'ancienne terre. Ainsi, dit quelqu'un, elle rentrera chez elle. Augustin entendit ces choses comme Madame Méridier et lui pénétraient dans la charcuterie du Perrier après la messe à dimanche de la fin de juin. Déjà, on prévoyait un après-midi plein de soleil et tout l'énervement de l'été. Il sentit passer dans son cœur, comme à certaines cérémonies du deuil officiel anglo-saxon, une minute de silence. Les vacances qui s'approchaient, Ronsard et la Renaissance, les saucissons pendus en montre et recouverts d'étain, cédèrent le pas, attendirent. La minute passée, les saucissons se mobilisèrent les premiers, les vacances suivirent. Tout redevint ordinaire, calmement horizontal. L'après-midi, Augustin et son père sortirent comme d'habitude, seuls. Christine, les petits et leur maman restaient inséparables de la voiture d'enfant. « Que veux-tu lire ?» dit le père. « Musset, papa. » Le ton était sec et très décidé, et rien ne pouvait faire pressentir ce choix. « Mais quoi de Musset ?» Les contes d'Espagne et d'Italie. Ce n'est pas le grand Musset, dit le père, avec cette ironie dans l'indulgence qu'il avait quelquefois. Je te conseillerais le théâtre ou les nuits. Tu les as dans les morceaux choisis de Marcou, au moins les principaux passages. Oui, papa, sans doute. Augustin s'arrête comme devant un trou sur son chemin. Son père sait parfaitement qu'il est, en seconde, certains moments où l'on désire lire Musset. Le véritable Musset, non pas le Musset ébranché et tailladé par Marcou. Et aussi qu'il convient de devancer, si l'on peut, les poussées sentimentales, de les dériver en terrain préparé. La sensibilité d'un enfant a-t-elle besoin que tous les nœuds de la divine raison soient coupés autour de ses ailes ? Devra-t-elle voleter seule dans l'inordonné? N'abordera-t-elle point le monde passionnel avec une certaine volonté de voir net dans le clair-obscur des lyrismes? Dans sa poche, le père emporta les nuits. Il choisissait, toujours assez loin des routes, les endroits mi-prairie, mi-faubourg agricole, où les sentiers dévalaient vers l'eau du côté des moulins. En ces après-midi de dimanche, le paysan reste chez soi et souvent y laisse ses vaches. Toute la campagne n'était que solitude, coup de brise, ardeur des débuts d'été. Quelques cloches de vêpres, hasardeuses, prodigieusement lointaines, amenées par le vent du midi, bourdonnaient comme d'autres insectes. Le père expliquait que toutes ces émotions, sous leurs vêtements d'images célèbres, avaient une place, un sens, l'un et l'autre précis, dans la suite des circonstances sentimentales dont Musset a fait les nuits. C'est au lecteur de trouver cette suite avec une clairvoyance aussi délicate qu'il pourra, sous peine de comprendre à faux. Il se garde bien d'éviter les textes brûlants. J'aime et je veux pâlir. J'aime et je veux souffrir. J'aime et pour un baiser, je donne mon génie. Cette frénésie, éclatant après la plus écrasée résignation, une lassitude d'intensité égale la compense. Partout où, sans cesse altéré, de la soif d'un monde ignoré, j'ai suivi l'ombre de mes songes. Partout où, le long des chemins, j'ai posé mon front dans mes mains. Sans parler de ce rythme de glas, ni de ces magnifiques voyelles funèbres, que te semble du contenu sentimental? Le père continuait dans le silence de son fils. L'âme de Musset, l'âme passionnée, est toute ondulation. Abattement, puis excitation. Affaiblissement après frénésie. C'est une loi qu'on atteigne l'affaiblissement final de toutes les grandes émotions, amour ou deuil, le père les mêlait comme de l'eau au vin, que par des mouvements périodiques. De ces secousses de l'âme, ces vers, et seulement les plus expressifs, ne nous donnent que quelques-unes. Imagine Oreste, au lieu de tuer Pyrrhus, se laissant le temps de s'apaiser, ce qui serait préférable pour tout le monde. Le petit visage d'Augustin est tendu, fermé, sans confidence. Cette frénésie d'amour a dû se sentir en passant, tomber en eau profonde avec quelques ronds tranquilles. Il longeait d'épaisses clôtures en ronces, chèvrefeuilles et saules, bordant des carrés d'herbage fermés comme des jardins. Sur les graminées intactes d'avant la fauchaison, les souffles passaient, retroussant l'herbe, montrant les dessous en peluche bleuâtre, courbant tout le pré pour un long salut végétal de la plus docile grâce, à jamais inconsciente. Ce soir, même Augustin s'aperçut qu'il ne pourrait dormir. Madame Méridier avait dû chercher dans cette vieille maison pleine de recoins quelques cabinets faciles à disposer en chambre à coucher pour un enfant grandissant. Le cabinet regardait non pas la rue, mais cette partie de la campagne bordant immédiatement la ville, culture, enclos, espaliers, premiers arpents de prairies à pommiers. Il les dominait par l'intermédiaire d'une creuse très étroite courette, voisine d'autres, où coulait une fontaine, et le regard l'enjambait d'un bond. Comme les fenêtres n'avaient pas changé de dimension en passant d'une façade à l'autre, celle qui éclairait ce réduit baptisé chambre occupait toute la muraille intérieure. En l'ouvrant pour la nuit, on dormait à peu près dans les potagers et les arbres. Les odeurs immédiates, carrés de légumes, arômes de la terre, des buis et des vergers, petits relents honteux partis des courettes, se laissaient traverser par de grandes fumées voyageuses de bois ou d'herbes, en lente dérive au-dessus des prairies. Ces parfums froids, flottant sur les jardins, apparaissaient dans toute la distinction de leurs détails et de leurs composantes, exalté contre la fraîche immobilité du crépuscule. Tout prenait une netteté reposée. Tout ce qu'on goûtait se goûtait mieux. C'était un de ces soirs interminables où le ciel est si long à perdre le sombre bleu d'avant les fourmillements stellaires. À travers d'immenses distances silencieuses, Augustin entendit, venant de très loin, du côté des sablons, une sonnerie de corps aux rugosités minutieuses et presque dessinables, d'une réduction de volume extrême et d'une dimension de joujou, vue par le gros bout d'une lorgnette pour son, exténuée à la fois et précisée par la nuit. Le mot « désirer », employé seul, sans explication, sans complément d'aucune sorte, ne présente pas de sens intelligible. Et cependant, c'est bien cela. De cette langueur aveugle, de ce désir aux yeux crevés, Augustin ne peut même pas dire s'ils sont joie ou souffrance, ou les deux à la fois. Mais qu'est-ce qu'il y a donc ce soir, précisément ce soir, dans ses nerfs et dans son cœur? D'habitude, c'est beaucoup plus simple. S'il est joyeux, s'il est triste, il dit « je suis joyeux » ou « je suis triste ». Mais cette douceur violente, ce cœur gonflé à pleurer, cette sorte d'absurde trouble à cause de... Oui, précisément, à cause de quoi? Augustin ne l'a jamais senti encore. Il sangloterait de ne pas savoir où tend son désir. C'est sans doute de la fièvre, tout simplement, ou encore de l'agacement, ou peut-être aussi ce mélange de sonneries de corps, de lune et de nuit d'été, ces choses si banales. La nuit, la belle nuit, la nuit pleine et immense, de vastes nappes de lait lunaire ont coulé sur les jardins. Quand elle se cachait derrière les maisons, la lune envoyait tout juste une tache géométrique ayant la forme de leur intervalle, un enduit de lune posé sur le sol. Elle luit maintenant, large et royale, comme dans les vers d'Eviradnus. La belle nuit. Un vague demi-jour pénètre jusque dans la chambre, tire la serviette de l'ombre, applique sur le pot à eau convexe des lunules en vernis vif, indique 11h15 sur la petite montre d'acier. Parce que le temps employé aux besognes courantes au texte de difficulté dite moyenne fut nécessairement très court pendant toute sa classe de première, Augustin eut le loisir de meubler ses chambres intérieures avec lenteur, choix et délices. Une certaine déception se mêlait aux délices. Le nouveau professeur, M. Bougaud, juste sorti de l'école normale, annonçait son dessein d'insister sur ce qu'il appelait la partie idée de l'histoire littéraire, le libéralisme universitaire devant ouvrir à toutes un cœur aéré, des bras pleins d'accueil. Quelque chose de vague et d'ambitieux habita précisément cette partie idée. Les généralités dites philosophiques rendirent un son grêle sans qu'Augustin sût bien quel devait être le son plein. Des éclaircissements brumeux éclairèrent peu, et l'on ne pouvait dire au juste où commençait le mal éclairci. Un continuel usage de termes abstraits, traînant en laisse des métaphores, jetait, selon Augustin, de décevants reflets sur une obscurité essentielle. Son père n'avait pas en vain souri devant certaines idéologies et expliqué ses sourires. « Les vérités éternelles, disait M. Méridier, ne se dévoilent qu'aux yeux portant des lunettes de philosophe. » Ces demi-ténèbres, cependant, finirent par avoir leur charme de clair-obscur. Pendant tout un mois de printemps précoce, baigné de pluie, chauffé d'un soleil si frais qu'on l'arrosait sans doute en même temps que les fleurs, de beaux mots s'enchassèrent dans la prose de Taine, lourd de destin et de richesse, énigmatique, mi-lumineux, plein de prolongements, de couleurs et d'échos, ajournant leurs secrets derniers. Au demeurant, peu importait. Tout était provisoire, tant les lumières que les ignorances. Toutes dureraient un an, juste, et disparaîtraient d'un seul coup en philosophie, au lever d'un prodigieux matin. Pour la première fois, Augustin allait cesser de s'alimenter exclusivement de la pensée paternelle. Certes, il lui devrait encore beaucoup, mais tous deux avaient conscience d'un certain allongement du lien qui les unissait. Quelque chose dans leur intimité, et le soin même qu'ils mettaient à l'entretenir, trahissait cette fine et invisible fêlure, née de rien autre que le temps. Tout restait parfaitement semblable. Dans leur bureau commun, le petit poêle imita tout l'hiver le ronflement des précédents hivers. Mais ni ces ronrons de chat heureux, ni les photographies épuisées par leur persistance, ne s'ajustaient au temps nouveau. Douloureux pour Augustin, cet état l'était encore plus pour le père, parce qu'il avait commencé une seconde jeunesse toute d'holocauste, où rien ne comptait plus que son fils. Il ne savait pas dire « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Une vieillesse précoce de résigné mal résigné s'ajoutait à son âge. Après Augustin venaient deux filles, puis un gros balourd de garçonnet coléreux, puis une petite de 2 ans, fragile et pâle. Tout cela s'éternisait aux mains maternelles. M. Méridier faisait encore semblant de parler de sa thèse, comme si la rédaction en fût chose assurée, allant de soi, un peu retardée seulement par le manque de loisirs, de voyages et de joie. Mais un ouvrage tout voisin venait de voir le jour, écrit par un autre. Il eût fallu dépoter, changer de terrain. Il n'en sentait pas la force. Les notes restaient dans les chemises bleues, au rayon d'en bas, à côté des cartons personnels, inconsultés depuis nombre de mois. « Il peut te rendre de bons services, » dit-il de son collègue, M. Bougaud. Son rationalisme est clair, rapide, étroit, dans la tradition du 18e. Il ne faut pas toujours regarder par la même fenêtre. Évidemment, il simplifie. Évidemment aussi, les cadres durs et les fausses évidences. Ainsi dosait-il réserve et compliments en des mélanges à teneur acide. Il avait croisé ses deux jambes maigres et continuait de jouer avec son lorgnon, l'enlevant et le remettant devant ses yeux plissés. Tout d'un coup, « Tiens, j'aurais dû demander la chaire de rhétorique quand elle s'est trouvée vacante. » Il feignait d'ignorer qu'il y avait peu de chances pour qu'elle lui fût confiée. Il savait qu'il édifiait, dans l'imaginaire, seul terrain de ses revanches. Il savait qu'Augustin le savait. « Nous aurions fait ce travail ensemble ?» C'était une dissertation sur l'inspiration religieuse de Chateaubriand et du romantisme. « Nous l'avons fait ensemble, papa. Ceci vient de toi, et ceci. » Il rayait la marge de coups d'ongle. « Cela ne fait rien. J'aurais dû. » Les succès scolaires continuèrent. Mais Augustin ne pouvait préciser ce qui rendait plus petite l'échelle à laquelle il se mesurait. Une sorte de respect lui venait désormais de ses camarades. Il y avait des blancs laissés dans les versions jusqu'à ce qu'il parût le lendemain matin. La cour des grands, où on le voyait quelquefois, gardait sa répugnance, mais celle-ci logeait comme à l'étage inférieur, hors de contact, coupée parfois de fangeuses confidences. Des discussions entre les meilleurs élèves, ardentes et générales, proposaient des explications de l'univers. Marguillier ne rédigeait plus ni roman ni mémoire, mais un projet de réconciliation du capital et du travail sur des bases entièrement nouvelles, comportant des articles vides encore, mais déjà numérotés. Il le publierait pour les prochaines élections législatives. Ou plutôt, non, pour celle d'après, Appia, pratique, menait des rêves de médecine coloniale, échelonnait des traitements où figuraient les centimes. Quant à Vatton, ses compositions françaises continuaient d'être indolentes et d'un tour heureux. Il arrivait qu'il fût second. Partout ailleurs, il s'effondrait. Il était doux. Il s'exerçait à une sombre mélancolie. Surgissant du banc de pierre contre le cadavre de l'acacia, il se dressait, poussé par les dieux. Il criait alors des vers de Hérédia, de Sully Prudhomme, de Lecomte de Lille, tous ceux à qui les morceaux choisis de Marcou conféraient la notoriété, dans un supplément en petits caractères consacré à la poésie contemporaine. Il cachait jalousement ses propres vers. On savait toutefois qu'il serait publié sous le pseudonyme de Justine Printemps. Ce fut dans cette classe que la grande question se posa vraiment pour la première fois. Depuis sa petite adolescence et son premier contact avec la vie universitaire, les sentiments religieux d'Augustin avaient eu maintes occasions d'éprouver contre des thèses inverses la résistance de leur métal. Ces secousses passaient vite. Elles figuraient comme péché léger au bilan hebdomadaire. Elles étaient justiciables de la courte et drastique maxime de l'abbé Amplepuis, les chasser sans s'y arrêter, les combattre par le mépris. Cette pédagogie traditionnelle s'ajustait au tempérament de l'abbé. La rapidité utilitaire de ses décisions, le mince intérêt qu'il attribuait aux spéculations purement rationnelles, et jusqu'à la modestie de son niveau social, le poussaient à ne pas séparer les motifs de doute en distingués et en vulgaires. Une fois mis à part ceux qui dérivaient selon lui de la licence des mœurs, il expulsait tous les autres du même coup de balai. Une citation de saint François de Sales, dont se délectait l'abbé, renforçait le précepte « Faire comme faisaient les enfants d'Israël des os de l'agneau pascal, qu'ils ne s'essayaient nullement de rompre, mais qu'ils jetaient au feu. » Un anticléricalisme compact régnait sur les cours du lycée, aussi naturellement que le langage argotique, les bourrades, les coups de poing et projections d'eau, la distribution de pain au bout de fourche en fer, le débraillé, le cynisme adolescent et en général tout ce qu'exécrait Augustin. Cela filtrait du dehors à partir de quelques vigoureux représentants de l'anticléricalisme extérieur, comme Marguillet Gustave, écho de son papa, les deux Le Hugueur, fils du rédacteur de La Montagne radicale, ou le stupide Tadouleur du Perrier, de la charcuterie du Perrier, qui commençait toutes ses phrases par « on dit que ». Ce microcosme se montrait naturellement perméable aux grosses idées violentes, écloses quelque âge qu'ils eussent en des cerveaux enfantins. Il était entendu pour ces petits que la persistance de la religion, comme il disait, s'expliquait par la bonhomie de la République et la sournoiserie des curés. Ces motifs d'incrédulité s'ennobliraient sans doute dans les plus hautes classes pour se hausser en philosophie aux accusations d'inertie mentale et de survivance automatique, cime suprême. Pour le moment, des collines plus basses suffisaient à leurs ascensions. Augustin se rappelait Vatton, petit béjaune, nouveau venu en cinquième, demandant à Marguillet pourquoi il ne croyait pas à la religion, puisque Racine y croyait. À quoi Marguillet, large d'épaule et dominateur, répondait que Victor Hugo avait fait de plus beaux vers encore que Racine et qui croyait tout de même point. Opinion que Tadouleur du Perrier fortifia de cet autre. Et puis, on dit que si on cherchait bien, on trouverait dans la messe des prières contre la République. Sur quoi le béjaune sourit, docile et triste, comme ils faisaient tous dans la catégorie des faibles, des non-musclés, des petits proprets et trop jeunes. En ce pays des enfants, l'opinion publique régnait plus souveraine encore que chez les hommes. Parmi ceux dont les familles pratiquaient, qu'il eût fait peut-être même, comme un tenace et timide devoir, aucun ne faisait ses Pâques au lycée. Ils attendaient les vacances. Chaque dimanche, entre le petit déjeuner et la grande sortie, une messe d'interne, glaciale et poussiéreuse, occupait la chapelle pendant 23 minutes exactement. Il existait pour cette fonction un aumônier à plusieurs noms. Les simples d'esprit, nomenclateurs de petite race, l'appelaient le curé. Mais cette étiquette représentait dans l'onomastique le plus bas degré, la moindre saveur. C'était l'eau claire et le pain sec. Le lama, le bonze, le muezzin ne réussit pas, prononcé du ton détaché qu'il fallait, attestait au contraire une imagination orientale, une entière libération, une hardiesse dédaigneuse, juvénile et héroïque, digne des gants blancs portés à Saint-Cyr. Le prêtre ainsi désigné occupait quelque appartement écarté du bâtiment, confortable d'ailleurs, où l'on était sûr qu'il ne gênerait aucun service de discipline et d'économat, ni que son trajet n'en croiserait d'autres. Il ne voyait pas les professeurs, il donnait dans les salles d'études, d'une voix postillonnante et eunuchoïde, une leçon hebdomadaire de 3/4 d'heure, prise sur le temps des devoirs, oubliée dans un coin de la semaine, comme dans un couloir un balai. Il y réfutait, ainsi l'annonçait-il au début de chaque année, les principales objections contre la religion. Complètement ignoré des meilleurs élèves, qui se bouchaient les oreilles pour n'être point dérangés dans leur version latine ou leur mathématique, les autres coupaient cette conférence de questions grotesques posées d'un ton froid. Celle qu'un jour osa émettre le cadet des deux Leuger, est-il permis d'aller communier après avoir pris un clistère, devint tout de suite célèbre. Elle lui valut beaucoup de considération sur la cour des moyens et même des grands, et jusque dans le monde des domestiques. Il y avait un aide de cuisine, chauve, rieur, hideusement obèse, dont le visage sécrétait de l'huile. On l'appelait « mort aux mouches », à cause d'une manière qu'il avait d'écraser d'un seul coup de torchon toutes les mouches d'un billot à viande sur le lieu même où elles pâturaient. Il roulait parfois sur la cour des moyens, jetant à la traverse quelques plaisanteries d'une jovialité enrouée, jamais terminée parce que sa toux coupait la rigolade. Mais il en gardait sur le visage un épanouissement si long que celui-ci s'enchaînait à la plaisanterie suivante. Il passait sa vie dans une gaieté sans fin. Il dit à le Huger, « C'est vous qui avez demandé si on peut aller à la communion après avoir pris un lavement ?»« Sacré farceur, sacré farceur !» Les boules superposées de son corps et de sa tête tremblotaient d'une joie gélatineuse sur ses énormes jambes naines. Ces arrangements, dits religieux, ne regardant que les internes, Augustin n'avait jamais eu à rencontrer l'aumônier. Il entrevit un jour un petit vieillard rosé montant les escaliers du proviseur en une ascension souriante et asthmatique que la soutane entourait de plis ennoblissants. Il lui fit d'en bas un salut inaperçu. Il pensa que c'était lui. En rhétorique, le seul qui ne parut pas figé dans une épaisse négation candide se trouva être Vaton. Augustin l'avait rencontré un jour de sortie à la messe accompagnant une vieille dame proprette en une toilette noire ridiculement démodée. Il était aux petits soins pour elle tout en jetant de furtifs coups d'œil latéraux. Augustin ne demanda pas son nom. Vaton se montrant très secret sur sa parenté. À quelques semaines de là, Augustin connut un Vaton mystique. La classe venait de lire Polyeucte. M. Bougot étudiait à cette date la formation oratoire de Bossuet et l'influence de Saint Vincent de Paul. Il en parlait avec chaleur et vibration intérieure, montrant que le libéralisme universitaire prenait son bien où il le trouvait. Vaton confia à Augustin qu'il lui était bien utile de continuer son baccalauréat parce qu'il allait se faire trappiste ou peut-être missionnaire. Il hésitait entre les missions étrangères et l'immense attrait de la propagande catholique en milieu anarchiste. Ici et là, disait-il d'un ton rauque, c'est le même amour. Il s'enivrait des mots au fond des trappes et des carmels. Il plaçait sur eux des points d'orgue et les prolongeait, gardant la bouche ouverte tout le temps qu'il mettait à mourir. Au fond des trappes et des carmels. Augustin se rappela la borie des saules de son enfance. Une nuit, Capien voulait lire l'Assommoir, il découvrit dans le petit réduit qu'il se trouvait seul à connaître, Vaton, récitant des prières en un bouquin noir de curé. Tel fut du moins le récit d'Appia. Vaton lui aurait expliqué qu'il récitait les psaumes de matine, ce qui était très vraisemblable, les connaissances liturgiques d'Appia étant insuffisantes pour lui faire découvrir seul cette appellation. À quoi, naturellement, Appia répliqua que s'il s'agissait de sonner matine, celui qui ferait le Jacques était tout trouvé. Vaton, dédaigneux, aurait continué de balancer de droite à gauche en inclinaison alternée, son buste et ses deux mains jointes. Il battait une sorte de mesure, comme ça, expliquait Appia. Assis sur ses deux talons, la pointe des pieds et les deux genoux portant sur le sol, Appia ressemblait à un fakir. Il pouvait être entre minuit et 1 heure du matin. Mais Vaton démentit tout ce récit. 3 mois après, tout changea. M. Bougaud parlait cette fois de la philosophie politique en France au XVIIIe et XIXe siècle. Vaton n'avait bien entendu rien lu de Saint-Simon, ni de Fourier, ni de Proudhon. Il fit sa crise avec quelques extraits de Michelet et de 93. Elle prit la forme d'une tragédie en 5 actes. Le héros, ce serait sans doute Savonarole ou quelques personnages hussites, ou peut-être Maure, Vaton n'était pas fixé, était brûlé vif par l'Inquisition. Il proférait en mourant des prophéties socialistes, d'ailleurs couvertes par le crépitement du feu. Marguillet mit la main sur un des brouillons où l'on pouvait lire, parmi les ratures, des vers dans le ton des châtiments. « Ma haine des tyrans sort comme une huée des gouffres de l'esprit que sonde le songeur. » Marguillet trouvait cela pas trop mal. Le prophète, promis au bûcher, aimait une jeune fille, douce, triste et un peu folle. Vaton n'avait pas encore décidé dans quel lac de montagne elle trouverait la mort après l'autodafé de son amant. Quoiqu'en 5 actes, le poème devait comporter 400 vers au plus. La jeune fille s'appelait Paquerette. L'exposition expliquait pourquoi. Son cœur est d'or, sa robe est blanche. Augustin conclut brutalement que Vaton n'était qu'un sujet d'étude pour psychiatre. Mais, indifférent aux lazis de ses camarades, Vaton souffrait au contraire de tout mépris émané d'Augustin. Son mutisme le montra et ses sourires blessés. Les problèmes religieux s'abordaient en classe d'une tout autre façon. Seules les leçons d'histoire se permettaient en cette matière des appréciations directes. L'histoire de l'Église, de Constantin à Léon XIII, traversait les programmes d'un grand courant charrieur de faits sociaux et de passions humaines. Augustin décida une fois pour toutes qu'aucune critique n'y était gênante. Elle ne pouvait viser que les formes terrestres et faillibles, les régimes contingents du fleuve divin. Leur description à vol d'oiseau ne mettait en lumière, selon les lois du genre, que les accidents et les ruptures de pente, les cataractes et les tourbillons. Mais au long moment pacifique, dans les biefs calmes, tout l'abri des ombrages, le lit du fleuve, méconnu, sans histoire, disparaissait sous les eaux unies pendant toute la durée des temps heureux. Toutes les autres classes, au contraire, adaptaient aux allusions dogmatiques cette respectueuse prudence qu'exigent les manches calorifuges insuffisants et les objets trop chauds. Tous les maîtres se ressemblaient en cette discrétion, ou presque. Nulle différence entre le professeur de seconde, qu'on voyait parfois à la messe, le vieil éclectique de philosophie qui s'y rendait régulièrement, et le nouveau seigneur de rhétorique, l'aimable M. Boucaud, que, dès le premier trimestre, on savait candidat radical-socialiste aux futures élections municipales. Les idées religieuses s'exposaient avec une sympathie égale à la sympathie pour les thèses inverses. Ce que le professeur de première appelait « la grande tradition du libéralisme universitaire » consistait à pousser l'explication, en matière religieuse comme en tout autre, aussi loin que possible, en se gardant soigneusement de toucher à la caractéristique essentielle et aux conclusions suprêmes. La libre raison posait en autonomie totale toute question, hors la plus haute qu'elle déclinait. Elle ne disait même pas au cœur, comme devant une porte, « Après vous, je vous prie ». Elle ne discutait pas son droit d'entrée, mais se refusait à l'y suivre. En fait de jugement carré, parquant les dogmes dans le compartiment des vérités ou celui des mensonges, l'université se permettait seulement ceux qu'avaient au préalable formulé les classiques des deux camps, Pascal ou Bossuet, ou bien Bayle, Voltaire, Diderot ou Renan. Elle ne se croyait pas juge du fond. Elle ne prenait rien à son compte. Vue ainsi par leur image dans le miroir de l'histoire, les appréciations en matière de foi redevenaient possibles. Elle ressemblait à ces gentilshommes des romans Louis XIII, dont le tailleur, trop respectueux pour prendre les mesures directement sur leur noble corps, l'élevait par reflet dans une glace de pied. Ainsi véhiculée avec déférence au long des exposés, entre deux cupules imperméables, le surnaturel s'avalait dans la documentation, s'expulsait avec les conclusions, intact, neutre, indéfiniment récupérable, puisqu'il ne servait jamais. Augustin n'avait cure de cette sorte de respect. On ne devait pas trouver dans une même demeure spirituelle deux chambres sans communication entre elles, l'une habitée par l'intelligence et l'autre par la foi. Des correspondances, des attraits de pensée, mille préfigurations rationnelles au sein même du sensible criaient vers Dieu. Les motifs lourds, puissants et ramifiés où s'enveloppait toute son âme liaient bien aussi de quelque manière son intelligence. Comment trouver cette manière? Il savait qu'il ne savait pas, comme disait son père, mais qu'il lui faudrait bien savoir un jour. Un jour très proche. Peut-être 8 mois, 10 mois de calendrier, le temps de mordre largement sur la philosophie. Il avait des raisons d'avoir hâte. Ample puits l'assurait que le devoir, plus tard, prendrait pour lui la forme de ce qu'il appelait les luttes d'idées. Il aurait charge d'apologétique. D'autres âmes dépendraient de la sienne. Comme saint Paul avait osé dire « J'achève en moi ce qui manque à la passion du Christ », de même le chrétien d'œuvre complète l'action de Dieu. Suivait, baigné d'eau de Botto, des exhortations à terminologie militaire telles que « mener le bon combat » ou même « remporter la palme du vainqueur ». L'abbé professait la plus complète indifférence pour l'âge des métaphores que son insouci de beauté verbale juxtaposait aux méditations les plus riches de catholicisme actuel et millénaire. Il avait l'air de trouver le plus simple du monde cet ajustement de l'intelligence à l'apologétique. Mais Augustin voyait circuler dans sa classe M. Bougaud, rose, gaillard, précocement gras, l'œil vif et même allumé, la barbe cordiale, une mince pellicule de vulgarité sur son intelligence nette et nourrie. Il l'écoutait parler de Pascal et de Port-Royal au sortir de son déjeuner, dans l'odeur de café qu'il secouait encore. Il voyait que les choses religieuses se discutaient comme les autres, comme n'importe quel état de sensibilité, comme tout fait d'histoire. Qu'on eût le soin, M. Bougaud le prenait avec un ostensible scrupule, de placer toute recherche sur leur nature dernière en réserve sur de hauts rayons d'étagère, à l'abri des mains d'enfants, cela ne lui faisait pas croire qu'elles le fussent aussi des mains d'hommes. Assis au premier des huit bancs, en face de la carte d'Europe au traité de Westphalie, où s'encastrait la tête de M. Bougaud, il arrivait à Augustin de deviner, blotti au creux du fameux libéralisme et riant dans ses plis, quelque ironique tolérance des choses dont il sentait avec une soudaine violence combien elle lui était chère. Une réaction intérieure immédiate le durcissait alors, le faisait aigu et hostile, lui découvrait parfois le point faible où fleurissaient, fleurs de papier, les ingéniosités inexactes dont M. Bougaud n'était pas exempt. Plus souvent, elle le laissait en proie au vain désir des réfutations écrasantes et à l'impatience de se trouver, pour quelques mois encore, désarmé. Une fois même, il reçut des négations devinées, une sorte de plaisir subtil, acidulé et complice, peu sûr de sa légitimité, consenti plutôt que voulu, subi plutôt que consenti, relâchement de liens autoritaires, léger souffle libre courant sur la peau. Cette impression l'effraya. Tout ce petit drame échappait à M. Bougaud. Il sentait, fixé sur lui, le suivant dans la mobilité de ses allées et venues, les yeux de cet enfant qu'il estimait infiniment. Il ne devinait pas, ni se figurait qu'il y eût quelque chose à deviner. Eût-il compris? C'était simplement la crise d'un garçon de 15 ans. Crise de croissance, elles ennoblissent l'enfant qui grandit. Les vacances de Pâques allaient commencer. Les prédications religieuses traditionnelles occupaient la dernière quinzaine de carême. Conférences réservées aux hommes, scénarios de dialogue, appels habituels aux confessions, toute une apologétique populaire à gros grains, culminant en l'aigre semaine sainte, baignée de pluie, de froid et de bourrasque. Dans la rue au couvent, qu'il traversait avec son père, Augustin retrouvait certains souvenirs d'arbres débordant par-dessus les murailles et la poudre verte des feuilles naissantes. Le vent frappait de dos leurs deux parapluies. Ni Augustin ni son père ne recherchaient l'occasion de conversation intime sur des sujets de vie chrétienne. S'il arrivait au professeur d'en parler, ce qu'il faisait avec profondeur, quelque chose de plus que du respect et aussi un peu de cette familiarité des gens de la partie, spécialistes ou curés, c'était toujours d'une manière générale, à propos de quelque sujet moral ou littéraire, ce qui dépersonnalisait la chose, la déchargeait de son potentiel. « On ne se passe pas d'idéalisme religieux, » dit-il en réponse aux remarques d'Augustin sur M. Bougaud. Des deux formes de la pensée, l'esprit scientifique et les certitudes morales, ces gens suppriment la seconde et étendent la première à tout l'être. Une bourrasque de vent retourna son parapluie qu'Augustin dut lui prendre des mains et refermer. « Attendons un instant là, » fit-il. Des affiches bleues, nouvelles, posées à la porte de l'abbatiale, appelaient les fidèles à la mission, parmi d'autres, qui annonçaient des pèlerinages à prix réduit à Rome et en Palestine. « Ils étendent la première à tout l'être, » continua-t-il d'un ton de mélancolie rêveuse. « La foi dépose en partant tous ses voiles. Mais Caliban les trouve et s'en revêt. » Augustin le savait. Il n'irait pas au-delà. Et toute pénétration dans le champ étroit d'une autre vie religieuse, même si son fils l'y conviait, il s'en gardait comme d'une indiscrétion. Au demeurant, et malgré l'apparence, cette période de l'année se prêtait moins qu'aucune autre à une conversation précise sur des problèmes de vie chrétienne et de pratique confessionnelle. On ne pouvait savoir si M. Méridier, suivant la terminologie courante, faisait ses Pâques, qu'il avait certainement faites en ses années de très jeune professeur. Il ne communiait ni pendant la Semaine Sainte, ni le jour de Pâques à la messe des hommes, ni à aucune des messes ultérieures, ni à aucun des dimanches qui suivaient. Augustin se rappelait une certaine scène très brève entre ses parents quand il avait 8 ou 9 ans, d'un tragique voilé très perceptible à un enfant. Madame Méridier demanda devant le petit garçon, imprudence dont elle se repentit, quel jour et à quelle messe son mari s'approcherait de la sainte table. À cause du déjeuner, ajouta-t-elle avec toute la gaucherie d'un jeu de mots non voulu. On était au jeudi saint. Le temps du festin pascal est-il fini? Fit-il d'une suavité glacée. Ou l'abrège-t-on à cause de moi? Personne n'osait parler devant l'enfant. Le père reprit peu après son aménité habituelle. Augustin devait comprendre d'autant moins cette abstention que, d'habitude, le père accompagnait à la messe sa femme et les enfants, pourvu que ce ne fût pas à la messe des patronages. Au lieu du missel, il prenait alors un évangile, l'imitation ou les psaumes, dont il avait des exemplaires en latin. Il les lisait avec cet air de goûter lentement et parfois ce demi-sourire qu'Augustin connaissait bien, qu'il lui voyait par exemple à lire Virgile. Plus tard, il s'en étonna pour d'autres raisons encore. La lecture du professeur était considérable, en particulier sur l'histoire du sentiment religieux et mystique à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. C'était le sujet général où s'encadrait sa thèse. Les bibliothèques ecclésiastiques de la ville avaient été dépouillées par lui dans la limite de ses loisirs. Il existait à l'évêché, au grand séminaire et chez quelques chanoines qui se les transmettaient de l'un à l'autre, à cause de mort, comme disent les actes notariés, de beaux livres de Coton, de Bourdoise, d'Eudes, de Condran. La bibliothèque municipale conservait un fonds provenant de l'ancienne abbaye des Bois de Chaudefonds, avec catalogue en calligraphie du XVIIe siècle. Le professeur avait passé là de belles heures, dans les salles basses du vieux couvent des Jacobins, où se trouvaient les archives départementales et la bibliothèque. En ce que son père avait écrit, Augustin discerna plus tard une certaine richesse et hauteur de pensée où tout n'était pas consentement. Pourquoi s'arrêtait-il à cette demi-pratique? Répugnance sentimentale à la confession? Indifférence dogmatique? Respect humain? Économie spontanée d'activité? Augustin n'avait nul moyen de choisir entre ces hypothétiques dispositions d'esprit et ne se fut personnellement accommodé d'aucune. Il comprit plus tard que les choses étaient plus complexes qu'il ne supposait à cette date. Ils trouvèrent Madame Méridier sur le trottoir, devant la maison, un panier au bras plein de linge et de provisions. La mère Rambaud a failli être tuée. C'était une bonne femme, dentelière au carreau, qui faisait leur ménage pendant la semaine que la grosse Catherine passait tous les ans dans ces montagnes. Tous l'aimaient beaucoup. Comme ils se taisaient en leur stupeur, par son mari, le père Rambaud rentrait ivre comme toujours. Il a crié « Je veux que tu me fasses cuire des saucisses comme les bourgeois !» « J'ai voulu le raisonner bien doucement, » dit la mère Rambaud. C'est le vendredi saint. Tu en auras pour le dimanche de Pâques. » Il me bourrait de coups de poing et de coups de pied. Il a crié à Francine, « Va me chercher les saucisses !» Ce qui m'inquiétait, c'était ce couteau juste sous sa main. J'ai dit tout de même, « La Francine ne peut pas aller chercher des saucisses le vendredi saint. » Il m'a traversé le gras du bras, qu'heureusement j'avais eu le temps de lever. Ça me gênera bien pour les ménages et pour les dentelles. « La malheureuse, » continuait Madame Méridier, « s'est soignée toute seule. C'est Francine qui est venue me chercher. » Pourquoi n'est-elle pas allée à l'hôpital? Elle a songé que ça ferait des histoires. Les docs du centre mettraient le père Rambaud à la porte, peut-être pis. Les docs l'employaient comme cocher-livreur. Le médecin que j'ai prié de passer dit qu'elle en a pour un mois. Comme il montait l'escalier, M. Méridier demanda « Dirons-nous avec Pascal ?» Je ne crois que les témoins qui se feraient égorger.